Merci et d'écouter le grand face-à-face. Bonjour à vous qui nous rejoignez au sommaire de l'émission, le duel Natacha Polony-Gilles Filkenstein. Et puis le débat ce samedi autour de la crise et de ses conséquences économiques. Vous l'entendiez dans le flash il y a un instant. Une aide de 7 milliards d'euros de l'État pour aider Air France. Une autre aide à l'étude pour aider l'entreprise Renault. 5 milliards d'euros sont évoqués. Sous condition, point d'interrogation, comment aider toutes les entreprises pour qu'elles survivent à la crise? Faut-il choisir? Et comment éviter également la catastrophe économique dans le monde de la culture? Les cinémas, les théâtres, les salles de concert sont fermées. Il n'y aura pas de festival cet été. Et c'est toute l'industrie, tout le monde du spectacle et notamment du spectacle vivant qui s'interroge et qui s'inquiète. Pour en parler, notre invité connaît ces sujets mieux que personne. Il a longtemps été le PDG de Renault. Il préside aujourd'hui Initiative France, qui est le premier réseau associatif de financement de créateurs, de repreneurs d'entreprises. Et il est également le président du Festival d'Avignon. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec Louis Schweitzer.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Et on démarre avec le duel et mes amis confinés du samedi, la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut à tous les deux.
Bonjour.
J-16, les amis. Vous avez bien la date en tête? Le compte à rebours est lancé?
Oui.
Le compte à rebours est lancé.
Ça n'est qu'un début.
Ça n'est qu'un début justement, parce qu'on va en parler. Le compte à rebours est lancé dans nos têtes et il est lancé également pour le gouvernement, puisqu'il y a maintenant de l'impatience de notre part et de l'urgence du côté notamment du Premier ministre.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Notre vie, à partir du 11 mai, ce ne sera pas exactement la vie d'avant le confinement. Pas tout de suite. Et probablement pas avant longtemps. Mais comme nous avons réussi le confinement ensemble, nous allons réussir ensemble le déconfinement. Comme nous avons appris à nous battre contre le virus, nous allons apprendre progressivement à organiser notre vie collective avec ce virus.
C'était le Premier ministre, vous avez reconnu la voix d'Édouard Philippe quand il s'adressait dimanche dernier lors d'une conférence de presse aux Français qui le regardaient. En l'occurrence, on va parler du fond, mais d'abord Gilles, puisque c'est notre rituel du samedi. Vous suivez l'évolution du moral des Français de très près avec la Fondation Jean Jaurès et l'IFOP. Je le disais, J-16, on a tous en tête la date du 11 mai. Est-ce que ça change quelque chose dans la tête, dans nos têtes?
Ça change beaucoup. Alors évidemment, la lassitude grandit. De semaine en semaine, la lassitude de l'inactivité ou de la sous-activité. La lassitude qu'on a vue progresser plus fortement encore de ceux qui sont en télétravail et qui sont en parents d'élèves avec la rentrée des classes, de la tension qui traverse chacun entre le parent et le salarié. Lassitude de l'absence de contact physique, les visio-apéros, c'est bien, mais ça a ses limites.
Ouais.
Et puis tout simplement la lassitude de l'enfermement. Et on a une femme qui nous a écrit « J'ai envie de liberté, de prendre ma voiture et de rouler sans même aucune destination particulière ». Donc il y a la lassitude. Mais la fixation de la date, le 11 mai, a provoqué un vrai renversement de perspective. Et ça, c'est très intéressant. Il y a comme s'il y avait une lueur d'espoir, et de manière très symptomatique, vous l'avez dit vous-même, on est à J-16. Jusqu'à présent, les Français y comptaient J plus 39. Aujourd'hui, c'est J plus 39 par rapport au début du confinement.
Oui.
Eh bien, avec la fixation de la date, ça renverse la perspective et on est à J-16. Et évidemment, ça change beaucoup. Ça n'enlève pas, et c'est pour ça que les sentiments de cette semaine sont ambivalents. Il y a de l'espoir, mais il n'y a pas beaucoup plus de confiance parce qu'il y a énormément d'interrogations. On va en débattre sur les modalités du déconfinement.
Justement, Natacha, puisqu'on a entendu le Premier ministre annoncer la date du déconfinement, que les choses se précisent petit à petit, mais encore beaucoup de questions très concrètes qui restent posées quand on pense à des questions très simples concernant le retour des enfants à l'école, concernant la possibilité ou non de respecter les distances sociales dans les transports en commun, notamment dans les heures de pointe, évidemment. Lorsqu'on pense à l'interdiction d'ouvrir les restaurants et les bars dans un premier temps, mais qu'on pourra justement se rassembler dans le métro ou le RER, comment répondre à toutes ces questions question aussi vite et dans l'urgence?
Alors, il faut se dire que justement, on va pas répondre à toutes les questions tout de suite et dans l'urgence. Et c'est sur ce point-là qu'on peut être extrêmement indulgent vis-à-vis d'un gouvernement qui tâtonne et qui ne peut que tâtonner. Tout le problème est de savoir justement quels sont les éléments de bon sens qu'on peut mettre en place. Par exemple, il y a une chose qui est assez inquiétante, c'est de voir que parmi les 70% de Français qui disent qu'ils ne veulent pas renvoyer leurs enfants à l'école, hein, parmi les 70% de parents d'élèves, pardon,
oui.
Eh bien, en fait, ce sont les plus défavorisés qui sont les plus inquiets et qui sont les plus réticents. Or, l'enjeu est justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de décrochage chez les élèves les plus fragiles, c'est-à-dire justement ce public-là. Donc là, il y a un enjeu, il va falloir faire un travail de confiance. Cette confiance ne peut venir que de la certitude chez les parents que les conditions minimales de sécurité seront mises en place. Donc en fait, on n'est pas seulement dans du ressenti, on est dans de l'opérationnel. Comment on garantit aux gens que ça va se passer correctement? Or, je suis toujours étonnée de certaines choses, par exemple, où j'entends de la part du président, de la part du premier ministre, le terme, par exemple, les masques seront probablement obligatoires dans les transports. Ce oui. Probablement est très étonnant. Vous voyez, si on veut donner confiance aux gens, on leur dit, ce sera obligatoire. Et nous ferons en sorte, mais ça on va en parler après, que tout le monde en est, ou nous garantirons pour ceux qui ne peuvent pas en trouver que l'État sera là, etc. Mais oui. Ce probablement relève de l'indécision. Et c'est vrai pour d'autres sujets, par exemple le rapport entre l'État, les régions, les collectivités locales, de ce point de vue-là, fait apparaître aussi des flottements qui méritent d'être relevés et d'être analysés. Parce que, de fait, les conditions ne sont pas les mêmes sur tout le territoire. Il y a des endroits où le virus a moins circulé. Est-ce qu'il est nécessaire d'appliquer exactement les mêmes règles partout, quitte à ruiner des zones où, en fait, ça ne serait pas nécessaire?
Gilles Finkelstein, et notamment sur cette difficulté à donner le détail du plan du déconfinement, ce qui devrait malgré tout être fait en tout début de semaine par Jean Castex, le monsieur déconfinement du gouvernement.
Oui, les difficultés ou les flottements sont multiples. Pour partie, sans doute, sont-ils inévitables. On peut espérer qu'ils ne sont que temporaires et on verra quels sont les éclaircissements qui sont apportés lundi. Je crois que pour beaucoup, il y a une erreur de raisonnement quand on est dans une dichotomie entre l'avant et l'après. Il y a eu un avant, un monde d'avant, ça, évidemment, nul ne peut en douter. Et il y aura un après, un monde d'après, on peut l'espérer, mais pour l'instant, nous sommes ni dans l'avant ni dans l'après, nous sommes dans le pendant. Et on reste dans le pendant, y compris après le déconfinement, c'est-à-dire dans la vie avec le virus, on rentre simplement dans une nouvelle phase de ce pendant. Et les caractéristiques de cette nouvelle phase, c'est qu'elle va durer, c'est-à-dire que ça ne va pas se compter en jours, ni en semaines, sans doute peut-être même pas en mois, mais peut-être en années, et que donc il va falloir inventer une vie économique, sociale, démocratique, avec le virus. C'est pour ça que l'enjeu n'est pas de bâtir une grande cathédrale là, dans deux jours, pour savoir exactement pendant des mois comment nous allons vivre.
Il va falloir faire preuve d'adaptabilité. Non, mais de savoir tout simplement si les enfants devront porter des masques pour aller à l'école, par exemple.
Bien sûr, on aura des réponses. Pendant cette période, les savoirs vont évoluer, les contraintes vont évoluer, les problèmes vont évoluer. Donc il faut qu'on ait une première série d'éclaircissements. Ça, c'est absolument indispensable. Mais surtout, je crois qu'on a besoin de repenser le rôle de l'État dans cette nouvelle phase. Dans la première phase, on avait besoin d'un État qui soit très présent, d'un État qui soit décisionnaire sur les questions de santé, parce qu'il y avait des questions d'autorité, parce qu'il y avait des questions de pénurie et qu'il fallait gérer la pénurie. Il y avait des mesures d'urgence sur le plan économique. Là, on rentre dans une phase qui est une phase chronique, qui n'est plus une phase aiguë. Et le rôle de l'État, je crois, doit changer. Ça doit être un État plus régulateur, c'est-à-dire qui fixe le cadre, qui fixe les règles, mais qui s'appuie beaucoup plus sur la société, sur les entreprises, sur les collectivités locales, individus. Et donc ça, ce changement-là, il faut qu'il soit fait, il faut qu'il soit fait maintenant.
Malgré tout, il y a des questions auxquelles il va falloir répondre, dont celle-ci. Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Moi, je souhaite que le port du masque soit obligatoire et je souhaite qu'il n'y ait pas d'indulgence vis-à-vis de ce port du masque. Parce que si 98% des personnes en ont et qu'il y a 2% des personnes qui n'en ont pas, il ne faut pas les laisser rentrer dans les transports. Et si elles y rentrent, il faut les verbaliser. Mais si on veut sanctionner et verbaliser, il faut d'abord donner les masques. Il faut que tout le monde puisse en avoir. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous le savez. Donc oui, nous allons réfléchir aux modalités qui feront en sorte que tous les voyageurs auront des masques qui seront donnés par la région.
La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, cette fin de semaine, les Franciliens devront donc porter des masques dans les transports en commun. Mais comment faire, Natacha, pour répondre à cette question toute simple et que pose Marianne, notamment cette semaine, qui va payer ?
Alors, sur la question des masques, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça rejoint exactement ce que vient de dire Gilles sur le rapport entre l'État et les différentes composantes de la société, notamment les individus. C'est-à-dire, est-ce que c'est la puissance publique qui doit fournir ce genre de choses ? Est-ce qu'on considère que le masque va faire partie des droits pour préserver sa santé, ou est-ce qu'on considère que chacun doit essayer par ses propres moyens de se protéger parce que nous sommes des individus conscients, responsables, et que ça, c'est à nous d'organiser notre propre protection. En fait, je pense que c'est un équilibre entre les deux, et que là aussi ça va être très intéressant parce qu'on va devoir réinventer ce qui relève de la démocratie. On parle souvent de ça et ça a l'air abstrait habituellement, cette question démocratique, c'est-à-dire le fait que la vie démocratique, c'est de permettre à chacun d'être citoyen et donc d'être doué de libre arbitre, d'être autonome. Sauf que l'autonomie, il appartient à la puissance publique de faire en sorte que les citoyens puissent être autonomes. Concrètement, sur cette question des masques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que chacun actuellement ait conscience que les masques sont un élément indispensable pour pouvoir commencer cette phase qui en effet va être très longue de déconfinement.
À condition de pouvoir en
donc,
trouver.
Donc qu'il faut que tous ceux, mais justement, d'abord, il faut que tous ceux qui peuvent s'en fabriquer, s'en confectionner, le fassent. Il faut que la machine économique française soit mise en route. Elle l'est, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de petites entreprises qui aujourd'hui produisent. Il a fallu, hélas, beaucoup de temps parce que les lourdeurs administratives ont fait qu'on a freiné au début ces initiatives en disant « mais attention, est-ce qu'ils sont vraiment homologués ? Est-ce que c'est compliqué ?» Enfin, homologués ou pas, on comprend maintenant qu'un masque en tissu, du moment qu'il est imperméable, c'est indispensable et que c'est mieux que rien. Donc du coup, on met en route aussi la machine économique et en revanche, la puissance publique doit être là pour tous ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas forcément non plus l'information. C'est-à-dire que c'est un équilibre entre toutes les composantes et il serait dommageable d'attendre uniquement que la puissance publique le fasse ou de croire que c'est le marché tout seul qui va faire. Il va falloir là aussi réinventer cet équilibre qui est indispensable pour la démocratie.
Gilles, Olivier Véran, le ministre de la Santé, donnait des ordres de grandeur pour les prix des masques grand public, entre 2 et 5 euros pour des masques d'un textile de qualité filtrant, pour reprendre ces mots, et donc des masques réutilisables jusqu'à 20 ou 30 fois. Et c'est un calcul étonnant, mais qui aboutit à l'idée que finalement un masque ne coûterait que quelques centimes. Malgré tout, est-ce que c'est juste de demander à tout le monde d'en acheter, et de les acheter notamment dans des pharmacies, dans des bureaux de tabac, dans des magasins de grande distribution, qui fixent leur prix comme ils le souhaitent ?
Alors, en fait, il y a plusieurs questions qui viennent d'être abordées. D'abord, les masques sont aujourd'hui le symbole pour les Français de la difficulté ou voire de l'échec de l'État dans la gestion de la crise. C'est très très spectaculaire dans les enquêtes. C'est-à-dire que les critiques se concentrent sur la question du masque. Deuxième remarque, il y a aussi une espèce de mythe autour du masque, avec le sentiment que porter un masque, c'est revêtir une cape d'invincibilité. Oui. Ce n'est pas le cas. C'est utile, mais c'est quand même moins efficace que tester, que d'isoler et même que de se laver les mains. Et surtout, avec un masque, on ne se protège pas, on protège les autres. Bon, mais c'est utile. À partir de là, il y a trois questions que vous avez abordées. La première question, c'est est-ce que ça doit être obligatoire ? Il y a beaucoup de pays, de plus en plus de pays dans lesquels c'est une obligation juridique. Oui. Et au-delà de l'obligation juridique, on voit que c'est de plus en plus une obligation sociale, c'est-à-dire qu'il y a un souhait massif, hein, on est à 95% de souhait pour que ce soit obligatoire dans les transports publics, et c'est même de plus en plus déjà une pratique, vous avez près de 40% qui portent un masque en dépit de la pénurie. Donc on va vers l'obligation, ça c'est la première question. Il y a une deuxième question que vous avez posée, Alice, c'est comment on fait pour sortir de la pénurie, parce que la troisième question de savoir qui paye, elle ne se pose que dès lors qu'on peut en trouver. Et donc, il faut avoir une offre qui soit en quantité suffisante. Dans la première phase, quand il fallait des masques chirurgicaux, dans ce contexte-là, qui était un contexte de pénurie, ce qui était important, c'était d'être gros, d'être un gros acheteur. Et donc, c'était l'État, et il aurait sans doute même fallu que ce soit l'Union européenne qui achète massivement des masques pour peser sur le marché. Là, pour les masques grand public, Natacha Polony, je crois, a raison, il faut être mobile, et donc, il faut pas du tout qu'il y ait cette centralisation. Reste la dernière question, la question compliquée que vous venez d'évoquer, Alice, c'est s'ils sont obligatoires, s'ils sont disponibles, qui doit payer ? Je crois que l'État ne peut et ne doit en payer qu'une petite partie. Il y a une tentation de se dire si l'État oblige, l'État doit payer. Mais c'est oublier que, bien souvent, l'État crée des contraintes réglementaires qui sont payées par les entreprises ou même qui sont payées par nous particuliers, que je pense au siège bébé, au détecteur de fumée, c'est des contraintes réglementaires, mais c'est nous qui les payons. Et donc, pour certains, en revanche, pour les plus défavorisés, évidemment, il faudrait que ce soit l'État. Mais les entreprises vont payer aussi. Elles vont payer pour leurs salariés. Hein, on voit de plus en plus et pas seulement dans l'automobile ou dans l'industrie, là où il y a des contacts avec le public. Elles vont payer souvent pour leurs consommateurs. Regardez dans les grandes surfaces. De plus en plus, il y a des distributions et il y aura des distributions de masques à l'entrée des magasins parce que c'est l'intérêt des entreprises de rassurer leurs consommateurs. Les collectivités locales vont à n'en pas douter, en distribuer beaucoup, d'autant plus que ça va être la preuve de leur efficacité, de leur utilité, alors que nous continuons à être en campagne électorale. Et puis, les citoyens, eh ben, ils vont en payer ou en fabriquer. Au total, quelle que soit la solution, c'est quand même nous qui allons payer. Hein, parce que ce soit les entreprises, même si elles internalisent ça dans leurs coûts, que ce soit les collectivités locales ou que ce soit nous directement, de toute manière, à la fin, c'est quand même le consommateur qui paye.
Natacha ?
Oui, la question d'ailleurs de qui va payer, elle est plus large que simplement les masques. Nous l'avons mise en une de Marianne parce que la question, c'est sur l'ensemble. Tout cela modifie totalement les conditions économiques. Il va falloir totalement recomposer. Et quand il y a une crise aussi importante, la question de qui va payer, elle est essentielle parce qu'elle relève du pacte social, elle relève de notre conception de la justice sociale. Et les réponses, c'est ce que nous montrons dans le journal, les réponses en fonction des différentes crises, peuvent être très différentes.
Et alors justement, on va en parler de cette question, qui va payer et quand ?
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
On a préféré que le ministre de l'économie, évidemment, une situation tout à fait anormale et difficile à vivre, qu'est cet endettement français, mais on a préféré ça que le licenciement de masse et que des faillites, parce que ça nous coûterait plus cher le jour où la reprise économique sera là.
Il va falloir produire un effort conséquent pour que les dettes d'aujourd'hui ne soient pas remboursées par la génération de demain, mais que les dettes soient remboursées par notre croissance. Mais la croissance, ça veut dire sans doute qu'il faudra accepter de se retroucher les manches pour pouvoir aussi gagner plus, pour pouvoir travailler plus. Je pense que pendant une année, il faudra accepter de travailler peut-être jusqu'à 37 heures par semaine, c'est-à-dire aux alentours de 1700 heures à l'année.
C'était d'abord le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, et puis Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui étaient les invités de France Inter cette semaine. Est-ce que vous trouvez normal que la question du remboursement de la dette publique soit posée dès maintenant, dans l'urgence, et qu'il faille déjà poser la question en ces termes, avant d'en parler avec Louis Schweitzer dans un instant? On a préféré l'endettement à la faillite, Natacha.
De toute façon, la question de la dette se posait déjà avant, elle va se poser de façon beaucoup plus aiguë après. Dans une crise économique de cette ampleur, il y a différents choix qui relèvent, je le disais, de la politique, c'est-à-dire des choix que l'on fait en matière d'équité entre les différentes composantes de la société. dans une crise économique, on peut faire payer les très hauts revenus. Regardez, Roosevelt, après la crise de 29, a fait augmenter le taux marginal d'imposition jusqu'à 90% à un moment. Alors, le problème, c'est que l'ISF et les choses comme ça, c'est totalement marginal par rapport à l'ampleur de la crise là. C'est-à-dire qu'on gagnerait 3-4 milliards. Ça n'est rien du tout par rapport à ce qu'il va falloir débourser. Donc, c'est pas forcément la solution. Il y a l'idée, on va faire payer les salariés. Il faut qu'ils travaillent plus. Il faut qu'ils acceptent de baisser leurs avantages. Ça, c'est assez souvent fait dans les crises. Il y a le fait de faire payer le contribuable, ça, c'est très rare, hein, en gros. Oui. C'est-à-dire uniquement de l'impôt, ça s'est fait en Angleterre au 19e siècle, mais c'est assez rare. L'austérité. Il y a la question, on peut faire payer... Oui, on peut faire payer les marchés financiers. Ça aussi, c'est très rare, hélas, hein, parce qu'ils se refont toujours la cerise, ceux-là. Et puis, il y a la question de, est-ce qu'on fait payer les épargnants par de l'inflation? Alors, là aussi, ça ne doit pas se faire de façon brutale, mais de fait, créer de la monnaie, ça permet, si on le fait tout doucement, de lisser sur 20 ans et, en gros, de faire en sorte que ce soit les rentiers qui payent. Et c'est une solution, mais la question de la dette se pose, c'est-à-dire que une dette qui serait une dette perpétuelle dont on ne paierait que les intérêts tout en sachant très bien qu'on ne remboursera jamais le capital, de toute façon, c'est un fait aujourd'hui. C'est le capital de la dette française ne sera sans doute pas remboursé. Il faut allonger absolument le délai de cette dette. Et deuxième chose, il faut faire de la monnaie. Le problème, c'est la Banque d'Angleterre va le faire. Comment on fait avec la Banque Centrale Européenne? Et ça, c'est une piste qui doit être creusée. C'est-à-dire de faire en sorte que chaque banque centrale des pays européens puisse, sous le contrôle de la Banque Centrale Européenne, créer de la monnaie pour petit à petit lisser, là aussi pas brutalement et en contrôlant, mais pour lisser petit à petit le marché, faire en sorte que on absorbe doucement ce qui va être une crise absolument effarante.
Gilles, contre la crise, nous avons fait le choix de la dette, c'est le seul choix responsable, disait Bruno Le Maire cette semaine, mais il faudra rembourser un jour.
Eh oui.
Non mais vous dites eh oui.
Sans doute la... Attendez, mais évidemment, la question se pose. En tout cas, c'est une question qui, la question à la fois de la situation économique, de la chute, de l'effondrement de la croissance et de la progression à des niveaux encore supérieurs de la dette, est une question qui inquiète et qui inquiète légitimement les Français. On vit sans doute la première crise économique qui a été décidée par les hommes eux-mêmes, en considérant que le risque sanitaire était trop important et donc en assumant le coût économique. Cette crise, elle a un coût absolument considérable. On a dépensé déjà beaucoup, même si c'est compliqué de s'y retrouver entre ce qui est vraiment dépensé, ce qui est uniquement de la garantie de prêt, ce qui est dépensé par la Banque Centrale Européenne, ce qui est dépensé par les États. Mais on a dépensé des centaines et même des milliers de milliards. On a dépensé, je crois, utilement. Il faut quand même le dire. Quand on regarde le nombre de morts qui ont été évités, il y a encore une enquête de l'Institut Pasteur qui est sortie cette année, quand on voit l'utilité du chômage partiel, notamment en France, qui fait que on ne se retrouve pas dans la situation dans laquelle se retrouvent d'autres, notamment les Américains. Donc on a dépensé beaucoup. Et nous allons dépenser, il faut le dire, davantage encore. À la fois pour sauver le présent, tout n'a pas été fait. Je crois qu'il y a un certain nombre de prêts qui ont été garantis par l'État qui vont se transformer en fonds propres pour les entreprises. Il y a des secteurs entiers qui n'ont pas encore été suffisamment aidés. On va en parler avec Louis Schweitzer. Il faudra dépenser davantage encore pour préparer le futur. C'est-à-dire non seulement pour relancer l'économie, mais pour la réorienter, pour anticiper la crise future qu'est le changement climatique. Et donc, quand on est devant ces dépenses considérables, je crois que la formule, elle est simple. Nous devrons rembourser lentement. Ça veut dire quoi?
Nos enfants, nos petits-enfants.
Ça veut dire quoi? Nous devrons rembourser, ça veut dire qu'il ne faudra pas faire défaut. Ça provoquerait une crise financière supplémentaire dont nous n'avons pas besoin. Mais lentement, ça veut dire que la question ne se pose pas, elle ne doit pas se poser aujourd'hui. Et je dis ça pour tous ceux qui sont obsédés par la réduction des déficits depuis longtemps ou qui sont obsédés par l'augmentation des impôts ou pour les autres. Je crois que ce n'est pas la question de l'heure. Et donc, je partage ce que dit Natacha. La condition pour pouvoir rembourser lentement, c'est d'emprunter à long terme pour étaler. Daniel Cohen et Nicolas Terry ont proposé dans Le Monde de cette semaine que l'on emprunte à 50 ou à 100 ans. C'est la première condition. Et la deuxième condition, évidemment, c'est d'emprunter non seulement longtemps, mais d'emprunter à taux faible pour pouvoir alléger.
Ce qui est le cas à présent, d'un mot,
oui,
Gilles.
Oui, mais c'est possible. Eh ben, c'est possible, pas seulement en s'appuyant sur les marchés financiers tout seul, parce que les sommes et les durées sont trop considérables, mais en s'appuyant aussi sur la Banque Centrale Européenne. Il faut qu'elle coopère avec les États en explicitant ce qu'elle fait déjà, c'est-à-dire qu'elle rachètera ses emprunts. Et donc, la solution, elle est d'abord européenne. Elle requiert du volontarisme, elle requiert du pragmatisme, mais c'est possible et elle se pose et vraiment
d'un
on
mot.
Va payer, mais il faut pas commencer à payer tout de suite, sinon.
Mais c'est pas on, justement Gilles et Natacha, puisque
si, c'est
nos enfants, nos petits-enfants, quand vous dites qu'il faut emprunter à 50 ou à 100 ans, c'est reléguer la question de la dette
Ali.
À nos successeurs. Juste d'un mot avant de retrouver Louis Schweitzer, et je vous pose la question
mot,
de manière provocatrice,
Ali.
Puisque tout le monde, ou le plus grand nombre de personnes, la plus grande proportion des gens qui étaient intervenus sur la question de la dette disaient qu'il ne fallait absolument pas laisser cette charge aux générations futures.
Alors Ali, d'un mot, cette idée, c'est nos enfants, nos petits-enfants, mais nos enfants et nos petits-enfants ont aussi besoin que aujourd'hui nous puissions créer de la richesse en investissant, en prévoyant l'avenir. Donc c'est pas seulement un coût pour eux, c'est un investissement pour eux. Donc présenter cela en disant c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont payer, quand c'est dépensé pour de la dépense inutile, non investie, parce que on a refusé, parce que on a alourdi une machine administrative qui ne fonctionne pas. Là, je veux bien, mais ce n'est pas ce qu'on envisage là. Et surtout, j'insiste, mais on verra avec Louis Schweitzer.
Justement, on va le retrouver dans tout de suite.
La question de la dette doit aussi être pensée avec la question de la monnaie, la création de monnaie. La façon de créer tout doucement de la monnaie, on disait autrefois de faire tourner la planche à billets, pour essayer petit à petit que ce soit finalement la rente qui paye, en créant de la richesse maintenant et en permettant de donner de quoi investir.
Il est midi et demi sur France Inter, à suivre dans le Grand Face à Face, le débat avec Louis Schweitzer.
France Inter, le Grand Face à Face, le débat.
Vous l'entendiez tout à l'heure dans nos journaux, une aide de 7 milliards d'euros décidée pour aider Air France, une autre aide à l'étude pour aider, sauver Renault de 5 milliards d'euros. Mais comment aider toutes les entreprises? Faut-il aider d'ailleurs toutes les entreprises ou trier parmi elles pour choisir ou n'aider que celles qui survivront à la crise? Et comment éviter pour le coup la catastrophe économique et sociale dans le monde de la culture? Cinéma, théâtre, salle de concert fermée, pas de festival cet été. C'est toute une industrie, c'est tout un monde, et notamment celui du spectacle vivant qui s'interroge et qui s'inquiète. Pour en parler, notre invité, c'est l'ancien président directeur général de Renault. Il est à la tête d'Initiative France, le premier réseau associatif de financement des créateurs d'entreprises. Il est également président du conseil d'administration du Festival d'Avignon et président de la Fondation Droit Animal. La liste est longue, mais tous ces titres sont importants et ça montre l'étendue de ses champs de compétences ou des sujets sur lesquels il s'interroge. Bonjour Louis Schweitzer.
Bonjour.
Merci d'être à l'antenne de France Inter. On va d'abord prendre les choses dans l'ordre et partir de Renault, partir de l'industrie, partir de ces aides massives de l'État pour sauver les entreprises. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui était absolument nécessaire et est-ce que ce sera suffisant pour aider des groupes très grands, très importants comme Air France ou comme Renault, dont on ne sait pas s'ils ont un avenir ?
Bon, je pense d'abord qu'Air France et Renault, pour prendre ces deux exemples, ont un avenir. Et je pense que on ne peut pas laisser se détruire des outils de production, de création, aussi importants que Renault ou qu'Air France.
Mais personne ne sait si des avions recommenceront à voler, Louis Schweitzer.
Je suis sûr que les avions recommenceront à voler. Il n'y aura probablement pas la croissance du trafic aérien qu'on attend aujourd'hui. Et ça, c'est un ajustement qui se fera. Alors, pour les entreprises qu'on aide, il y a deux types d'entreprises différentes. Il y a des entreprises qui ont définitivement perdu des recettes qu'elles ne compenseront pas.
Oui.
Les gens qui se sont arrêtés de prendre, d'aller dans l'hôtel, ne vont pas aller plus dans l'hôtel demain, dans un hôtel ou en transport aérien qu'hier. Et puis, il y a des entreprises qui peuvent espérer rattraper l'activité perdue pendant un certain temps. par exemple le bâtiment, ça devrait rattraper le temps perdu. Et Renault, bah, je pense que là aussi, les gens qui n'ont pas acheté des voitures pendant quelques mois vont en acheter demain pour renouveler leur parc automobile.
Donc, mais quand demain,
on est dans une situation différente. Hein.
Est-ce que la première chose quand on sera sorti du confinement, ce sera d'aller acheter une voiture ?
Je ne pense pas que ça sera la première action. À vrai dire, nous ne savons pas non plus quand nous reviendrons, comme ça a été dit tout à l'heure, à une situation normale. Est-ce que ça sera dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an ? Ça, nous n'en savons rien. Mais ce que nous savons, c'est 2 choses. 1, la crise sanitaire n'a pas détruit l'économie. Elle l'a placée en suspension. Et il faut éviter... Grâce à ces mécanismes d'aide, hein, c'est un peu comme un respirateur artificiel pour un malade. Ça lui permet de respirer jusqu'au moment où il peut retrouver sa respiration normale. Et c'est ça le rôle de ces mécanismes temporaires. Mais il y a des entreprises qui auront perdu de l'argent qu'elles ne retrouveront pas. Et là, on voit qu'un simple prêt ne peut pas résoudre leur problème parce qu'il y a une perte définitive.
Et malgré tout, il faut les aider pour sauver les emplois.
Il faut les aider pour sauver les emplois et puis pour éviter que l'outil ne se détruise. Hein, cette crise, je le redis, n'a détruit aucun outil, ne détruit pas des entreprises par elles-mêmes.
Mais elle détruit des emplois.
En revanche, quand une entreprise licencie, quand une entreprise dépose son bilan, va en règlement judiciaire et se liquide, c'est une vraie destruction. Et une des forces de la mesure qui a été prise à juste titre par le gouvernement sur le chômage partiel, c'est que ça maintient le lien entre les salariés et les entreprises. Donc ça évite de détruire ce lien.
D'un mot avant de donner la parole à Gilles Finkelstein, j'aimerais juste vous poser la question de savoir s'il faut aider les entreprises sous condition. On parle d'Air France, on parle de Renault, on parle donc d'entreprises qui doivent faire leur transition écologique. Et en l'occurrence, est-ce qu'on doit aider ces entreprises en leur disant « Voilà, on vous aide, vous sauvez vos emplois et puis on vous donne rendez-vous dans quelques années pour voir si vous avez véritablement fait des efforts en matière de lutte contre le réchauffement climatique » ou est-ce qu'on est dans l'urgence et qu'il faut les aider, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, Louis Schweitzer.
Bon, d'abord, je crois que dans les situations d'urgence, il faut les traiter avec vitesse et pas s'engager dans des négociations sur plusieurs mois. En sens inverse, je ne suis pas du tout d'accord avec la proposition d'un certain nombre de grandes entreprises et du patronat qui consiste à dire il faut suspendre toutes les réglementations environnementales pour aider les entreprises à passer la crise. Je dirais, celle-là, c'est vraiment sacrifier l'avenir au présent, ça c'est une faute. Mais engager des négociations longues aujourd'hui, au moment où il y a une urgence, ça me paraîtrait tout à fait déraisonnable.
Gilles Finkelstein, puis Natacha Polony. Gilles.
Oui, on a assisté là depuis quelques jours à un début de reprise de la part aussi bien des constructeurs que des fournisseurs automobiles d'activité. Alors, elle est très progressive avec des effectifs qui sont très réduits, elle se fait toujours avec des protocoles qui sont extrêmement rigoureux. Ça n'empêche pas que, vous l'avez évoqué, la crise produise un choc absolument considérable pour ce secteur comme pour beaucoup d'autres. En dépit, il faut quand même le dire, d'un soutien public pendant la crise avec le chômage partiel et les prêts garantis qui ont été très importants. Ma question, elle est sur la sortie de crise. Bon, évidemment, il faudrait que les concessions puissent réouvrir à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il faut stimuler la demande ? Vous avez dit tout à l'heure que l'automobile est un des secteurs dans lequel on peut espérer rattraper les ventes qui n'ont pas eu lieu. Est-ce que pour cela, il faut stimuler davantage la demande ? Et puis, je voudrais que vous approfondissiez ce qui est, je crois, un des grands débats et sans doute un des grands conflits, peut-être même feutrés pour l'instant. Pour certains, et ils se sont exprimés beaucoup ces derniers jours, il faut un moratoire sur les dispositions énergétiques et environnementales qui ont été prises avec une idée très simple, c'est que ça nécessite des investissements qui, dans le contexte, sont impossibles. Et puis, d'autres, au contraire, disent « Eh ben, il faut faire de la transition énergétique un levier pour le rebond ». Manifestement, c'est votre position, c'est la mienne aussi, mais ça voudrait dire quoi ?
Louis Schweitzer.
Bon, je ne propose pas d'obliger ces entreprises à investir plus que ce que la réglementation actuelle, qui est en vigueur, prévoit de faire pour l'environnement. Je dis simplement, il ne faut pas faire de recul sur ce plan. Bon, deuxième question, la demande, au fond, comment faire que les gens retrouvent le chemin de leurs activités normales? Il y a une vraie inquiétude, qui est une inquiétude macroéconomique, c'est que l'épargne, au fond, augmente. Les gens n'ont pas dépensé, ils ont épargné parce qu'ils y étaient forcés pendant le confinement. Mais après, quand les gens sont inquiets, eh bien, ils tentent à ne pas dépenser et à épargner. Et on voit bien que si les gens épargnent, ils ne consomment pas. S'ils ne consomment pas, eh bien, ça veut dire que l'économie ne redémarre pas. Donc, il y a dans le programme gouvernemental à mettre en œuvre en sortie de crise, à faire en sorte que cette épargne n'augmente pas, ce qui mettrait toute la machine à l'arrêt.
Et qu'on redevienne tous de super consommateurs, comme dans le monde d'avant, je le dis en souriant, Louis Spitzer, mais on voit
pas sur
toutes les contradictions que nous vivons.
La France est un des pays où l'épargne des particuliers est la plus forte.
Mais la consommation représente 55% du PIB, malgré tout, en France.
Oui. Mais je veux dire, si la consommation s'arrête, la production s'arrête aussi. Hein. C'est oui. Une sorte d'évidence. Il faut agir à la fois sur l'offre, soutenir les entreprises pour qu'elles passent cette période difficile et éviter que la demande ne s'écroule. Parce que si la demande s'écroule, on est sûr que la crise se prolonge. C'est ce qui s'est passé après la crise de 29. Les gens étaient au chômage. Il y avait une crise des entreprises. C'est le chômage des gens leur a fait perdre des ressources. Et du coup, il y a eu une prolongation de la crise qui a duré près de 10 ans.
Natacha Polony.
Alors, moi j'ai deux questions pour revenir d'abord sur la question des critères d'aide aux entreprises, parce que vous l'avez dit, dans l'hôtellerie-restauration par exemple, il va y avoir des dégâts monstrueux et ce ne sera pas rattrapé, mais à côté de ça, il y a des entreprises pour lesquelles on peut se demander donc quels sont les critères qui doivent être mis en place. Et j'ai un exemple précis, Europcar par exemple, qui, on l'a appris, est éligible au prêt donc accordé, garanti par l'État, de 223 millions d'euros, qui est une entreprise qui était en difficulté pour de mauvais choix stratégiques avant la crise du Covid et dont, sur 12 000 salariés, 1900 sont des salariés français. Tous les autres sont ailleurs dans le monde. C'est un exemple parmi d'autres, mais donc quels sont les critères qui doivent être mis en place pour que ces entreprises soient éligibles? Est-ce que il faut réellement contrôler pour que tout cela revienne dans l'économie française et dans l'économie européenne? Et deuxième question, puisque certains ont parlé d'un mouvement de démondialisation à partir de cette crise, plutôt qu'une démondialisation, ce serait pas plutôt une déglobalisation, et notamment sur la question des chaînes de valeur, l'automobile de ce point de vue-là est un exemple assez important d'étalement des chaînes de valeur. Est-ce que vous prônez finalement une relocalisation à l'échelle de zones continentales? Comment voyez-vous ce mouvement de déglobalisation qui, je le pense, va être absolument nécessaire?
Louis Schweitzer.
Bon, il y a dans votre question sur la globalisation, puis la question d'Europcar est une autre question. Je pense qu'il y aura, de la part des entreprises, une tendance à régionaliser un peu plus leur production, c'est-à-dire d'éviter des systèmes qui font que si un pays dans le monde s'arrête, ça puisse arrêter la production dans l'ensemble du monde. Autrement dit, une dépendance totale vis-à-vis d'un lieu pour une entreprise qui vend partout et qui produit partout, c'est insupportable. Donc je pense qu'il y aura une volonté d'une certaine régionalisation et d'éviter un excès de dépendance sur un pays. Ce sera un comportement naturel des entreprises. Il y aura un second point qui va aussi contre une globalisation excessive, c'est de dire il faut éviter qu'il y ait dans ce nouveau monde un dumping social, un dumping écologique, un dumping environnemental qui fasse que des entreprises qui souhaitent mettre en œuvre une politique environnementale, une politique sociale correcte, soient confrontées à une concurrence d'entreprises qui ne respectent aucune règle. Et c'est vrai notamment dans le domaine alimentaire, mais c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres domaines. Alors maintenant, pour revenir à la question que vous disiez, vous évoquiez Europcar, mais c'est une question critères. Que je vois dans Initiative France. Il y a beaucoup de TPE et certaines de ces TPE vont mal à cause de la crise, et d'autres vont mal parce qu'elles n'étaient pas bien gérées, parce qu'elles avaient des problèmes, enfin bref, pour 25 raisons. Alors, ça veut dire quoi la réponse? Est-ce que ça veut dire qu'on a là une sorte de grand tribunal qui va dire, voilà, telle entreprise mérite de vivre et telle entreprise ne mérite pas de vivre? Juste aujourd'hui, je pense pas que ce soit la bonne réponse. En revanche, ça veut dire qu'on donne des aides pour les TPE, rapides, sans trop de discussion, mais qui permettent de couvrir une période temporaire. On essaye d'éviter de soutenir des entreprises qui étaient de toute façon condamnées. Oui, ça, on essaye de faire cela.
Mais pour un cas comme une grande entreprise, comme le loueur de voitures Europcar.
Je connais pas assez bien le dossier d'Europcar, mais c'est vrai que
Europcar... Non, mais ça représente un exemple parlant, mais qui concerne d'autres entreprises.
Oui. Exemple dans lequel l'État va sauver des actionnaires qui ont,
oui,
qui ont joué et qui se font garantir par l'État.
Je connais bien, hein, l'entreprise Renault. L'État, dans les années 80, a soutenu Renault alors que tout le monde pensait que cette entreprise était condamnée. Et je pense que l'État a eu raison d'éviter la destruction de cette entreprise. L'État a soutenu PSA dans les mêmes années 80, alors que tout le monde pensait que PSA était condamné. Et je pense que l'État a eu raison de soutenir cette entreprise à ce moment-là. L'État a soutenu Michelin dans les années 80 aussi, à un moment où tout le monde pensait que Michelin allait dans le mur. Eh ben, franchement, ça a été des voies intelligentes. Donc, avant de détruire, il faut s'assurer qu'on ne peut pas corriger et reconstruire.
Natacha, vous êtes satisfaite par la réponse?
Est-ce qu'il faut... Oui, mais la réponse... Enfin, je demanderai juste un complément, et après on sera sans doute à autre chose.
On va passer à la culture.
Parce que dans le cas d'Europcar, je le disais, 1900 salariés français contre 12 000 en tout... Renault aussi, par exemple, a beaucoup de sites en dehors de France, c'est légitime. Jusqu'à quel point, là aussi, une grande entreprise doit délocaliser? Alors, chez Europcar, ça se comprend parfaitement. Chez Renault, cette politique... Renault est une des grandes entreprises qui a le plus délocalisé ses emplois dans les dernières années, quand on regarde le CAC 40. Donc, est-ce que il faut réfléchir à cette question-là, et de quelle manière?
Louis Schweitzer.
Alors, d'abord, quand je dirigeais Renault, j'étais contre la délocalisation et j'ai consacré de l'énergie à accroître le nombre de voitures Renault fabriquées en France, et je crois que je n'ai jamais pris une décision de délocalisation au sens où on l'entend maintenant. Donc je ne suis pas favorable à la délocalisation. Je pense que derrière cela, il y a une question plus importante. La plupart des entreprises sont mondiales. Et on le voit avec les GAFA, dont on a beaucoup parlé. Il faut renforcer le lien entre l'emploi et les ventes des entreprises et aussi la fiscalité. Et les lieux où elles sont. Oui. Où elles exercent effectivement d'activité. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui sont localisées dans un endroit... et qui sont dans beaucoup d'endroits dans lesquels elles ne sont pas des acteurs, elles ne sont pas des contributeurs, elles ne payent pas d'impôts. Bref, il y a une question qui est que nos systèmes généraux n'ont pas été conçus pour des entreprises mondiales.
Comme Renault-Nissan, par exemple, je le dis de manière malicieuse.
Là-dessus. Pardon ?
Est-ce que c'est pas le cas de Renault-Nissan, justement ? Du siège fiscal de Renault-Nissan.
Renault-Nissan, c'est une situation un peu différente. Il y a une entreprise japonaise qui est implantée au Japon et il y a une entreprise française qui est implantée en France.
Oui.
Bon, une entreprise qui ne voudrait vendre des autos que dans le pays où elle est implantée, elle serait morte depuis longtemps.
Non, bien sûr, mais l'État français va aider une entreprise française qui, malgré tout, appartient à un groupe qui est domicilié fiscalement ailleurs qu'en France.
Pour le moment, Renault est domicilié fiscalement en France. Renault et Nissan sont deux entreprises qui sont alliées par des participations croisées. Et Nissan est domicilié fiscalement au Japon et Renault est domicilié fiscalement en France. Cela, il y avait des projets de Carlos Ghosn de changer cela, mais ces projets n'ont pas été mis en œuvre.
Gilles Finkelstein.
Quand on essaye de se projeter dans ce fameux monde d'après et de réfléchir à l'avenir de la mondialisation, vous l'avez fait d'une certaine manière en se plaçant du point de vue de l'entreprise, en disant qu'elle devrait sans doute à l'avenir être davantage régionalisée et davantage diversifier leur production qu'elles ne le font aujourd'hui. Si on se place non pas du point de vue de l'entreprise, mais du point de vue de l'État, et vous avez été un grand serviteur de l'État aussi, vous avez déclaré il y a quelques jours qu'il fallait que chaque État, et notamment la France, je vous cite, « assure la maîtrise de ses fonctions essentielles historiques ». Ma question est, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la bonne méthode pour réfléchir à cette question? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vraiment stratégique? Où avons-nous des faiblesses? Où pouvons-nous agir? Faut-il constituer des stocks? Faut-il modifier la production? Faut-il le faire au niveau européen? Faut-il le faire au niveau français? Comment on incite les entreprises? Est-ce que ce sont ça les bonnes questions? Et si oui, est-ce que vous avez des illustrations de secteurs dans lesquels, ou de produits, de biens sur lesquels il faudrait avoir une plus grande maîtrise de ces fonctions essentielles?
Louis Schwenzer.
Bon, deux réponses. La première, je reviendrai à la célèbre conférence de Gates qui disait, voilà, on dépense beaucoup d'argent pour se préparer à un risque militaire, on fait des exercices, des manœuvres, et on ne s'est pas préparé à quelque chose dont on savait qu'il viendrait, qui est une épidémie mondiale.
C'était une conférence donc, tête de 2005.
Absolument. Et de 2015, il avait raison. Pardon. 2015. Mais il avait raison et ça illustre le fait que le risque sanitaire est quelque chose à quoi on doit se préparer, qui est la responsabilité de l'État d'organiser cette préparation, comme sur le risque défense nationale ou le risque sécurité au sens militaire au terrorisme. Donc ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir. La réponse sanitaire est évidente, il y a la réponse climatique. Puis il y a un second point, c'est que les États sont des acteurs territoriaux face à des interlocuteurs qui sont des acteurs mondiaux. Et qu'il y a de ce fait une concurrence entre États où les États sont un peu désarmés vis-à-vis de ces acteurs mondiaux, ce qui fait que si un État ne supprime l'impôt sur les sociétés, eh bien, les autres États sont obligés de réduire leurs taux, etc. Ça vaut aussi d'ailleurs pour les particuliers. Et donc, là, il y a clairement une concertation qui doit avoir lieu pour éviter une sorte de dumping fiscal, parce que l'État a besoin de ressources, il a des responsabilités. Ceci a été engagé au sein de l'OCDE. Clairement, ça doit être accéléré.
Mais comment a fait Louis Schwenzer pour faire la liste des entreprises stratégiques ou des secteurs stratégiques qu'il faudrait relocaliser ou sur lesquels il faudrait retrouver une souveraineté pleine et entière? Vous parliez de l'industrie militaire, des questions de défense, ça tombe sous le sens. On peut aujourd'hui ajouter des questions sanitaires, les médicaments, mais peut-être pas tous, les masques, mais qui aurait pensé il y a 2 mois? Et comment faire cette liste-là?
Ben, c'est quelque chose qui est un travail de longue haleine. Hein. C'est pas quelque chose qu'on décide en 3 minutes sur une impulsion, parce que les mesures de préparation, pour reprendre le mot qu'a employé Gates, comme les mesures de précaution, ont un coût. Et donc, il y a un arbitrage et une étude. Autrefois, on avait une structure qui s'appelait le plan, qui ne donnait d'ordre à personne, mais qui permettait à l'État, aux entreprises, aux représentants du personnel, aux consommateurs, de réfléchir ensemble aux questions importantes.
Oui.
Et moi, je pense que c'était une structure extraordinairement utile. Il ne s'agit pas de dire, vous devez faire ci ou vous devez faire ça. Il s'agit d'avoir une réflexion construite, ensemble, et on voit bien à ce moment-là qu'un certain nombre de choses apparaissent et puis d'autres sont plus contestables.
Question à l'homme de culture que vous êtes également, Louis Schwenzer, puisque vous êtes le président du conseil d'administration du Festival d'Avignon, mais que vous participez également à la vie de nombreux musées, celui d'Orsay, du Quai Branly, vous êtes un passionné de culture. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui est une catastrophe économique de nature à véritablement tuer de très nombreux acteurs de la culture et particulièrement dans le spectacle vivant?
Alors, il se trouve qu'en France, on est mieux protégé sur ce plan que dans d'autres pays. Pourquoi je prends l'exemple du Festival d'Avignon? Le Festival d'Avignon bénéficie d'un soutien public de l'État, de la région, de la ville d'Avignon, du département du Vaucluse. Bref, il y a une série de soutiens publics qui font que le Festival d'Avignon n'est pas mis en cause et que en 2021, sauf si les conditions sanitaires se dégradent, il y aura un Festival d'Avignon et que tout redémarrera. Mais à Avignon, vous savez, il y a aussi un festival off. Et ce festival off, ce sont des compagnies privées, toutes sortes de compagnies. Et pour ces compagnies-là, oui, un certain nombre mettront la clé sous la porte. Elles ont dépensé de l'argent, elles ne le retrouveront pas. Et donc, il y a un vrai risque. Donc, au fond, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est de dire que il est important qu'il y ait un secteur public de la culture. Je voyais une image du Metropolitan Museum de New York, 150e anniversaire, et des risques de dépôt de bilan, de licenciement, etc. Oui. Alors que c'est un des plus beaux musées du monde. Le Louvre n'a pas ce risque.
Et il faut dire que le Metropolitan est gratuit, contrairement au Louvre en l'occurrence. Mais
oui, mais on invite à donner des dons, etc. Oui. Et quand un musée est vide, les dons ne viennent pas.
Natacha Polony.
Alors, d'abord, une petite parenthèse quand même pour tout à l'heure. Ali avait raison sur un point, c'est le siège de la holding Renault-Nissan-Mitsubishi qui est aux Pays-Bas. C'est pas Renault ni Nissan, mais c'est aux Pays-Bas.
Mais
c'était une parenthèse.
Pour dire un mot, qui n'a pas de recettes et de dépenses significatives et donc qui n'a pas de fiscalité. Okay.
Et juste ma question, vous parliez du plan, c'est-à-dire de la capacité, notamment des politiques, à voir à long terme, ce qui est absolument essentiel. Est-ce qu'il n'y a pas un élément qui peut-être rend cela un peu plus difficile aujourd'hui? Vous avez été au cabinet de Laurent Fabius au moment de la crise du sang contaminé, donc vous avez vécu ça de l'intérieur, cette difficulté, et surtout ce risque maintenant de paralysie de la part des politiques qui n'ont qu'une peur, c'est le risque juridique. Comment voyez-vous cette capacité des politiques à assumer les risques dans un monde qui, de fait, a changé?
Louis Schweitzer.
Bon, le métier politique, hein, pour moi, est le plus difficile des métiers qui soit. Je l'ai vu de près, je n'ai pas été un vrai homme politique puisque je n'ai jamais été élu. C'est un métier extraordinairement difficile et dont je regrette qu'il ne soit pas assez valorisé et reconnu parce que c'est un métier très difficile et essentiel. Nous avons là une spécificité française que je déplore, qui est que en France, quand on a un problème, la seule voie pour le traiter, le résoudre, voir les responsabilités est la voie pénale. Alors que dans d'autres pays, je pense aux États-Unis, je pense à l'Allemagne, je pense à la Grande-Bretagne, la voie est une voie politique et une voie civile qui évite ce sorte de paralysie, de peur qu'on peut voir en France.
Oui.
Je voudrais souligner quand même que cette concertation que j'évoque, je suis très frappé que dans un pays comme l'Allemagne, il y a une concertation, il n'y a pas de structure qui s'appelle le plan, mais il y a une concertation permanente et constante entre les grands acteurs. Les gouvernements fédéraux, les États fédérés, les syndicats et les chefs d'entreprise. Alors que en France, il n'y a pas ce travail en commun permanent, cette coopération entre acteurs. Et je pense que c'est une des explications des succès économiques de l'Allemagne et aussi, disons-le, du fait que l'Allemagne se tire beaucoup mieux que la France de la crise du coronavirus.
Il nous reste deux petites minutes. Gilles, rapidement.
Oui, je voudrais revenir sur la culture. Vous avez dit que le secteur était mieux protégé que dans beaucoup d'autres pays parce que le soutien public est plus important. Est-ce que vous n'avez pas malgré tout le sentiment que, à la différence de ce que vous évoquiez pour Renault, le problème peut être plus durable et plus profond, non seulement parce que ce qui a été perdu est moins rattrapable, non seulement parce que ce n'est pas encore réouvert, mais parce que les lieux culturels, par définition, sont des lieux dans lesquels on concentre du monde, parce que les activités culturelles sont souvent des activités de contact, et parce que le public culturel est plus âgé. Donc, est-ce que le problème n'est pas vraiment un problème sérieux? Et est-ce que...
Vraiment rapidement, Gilles.
Oui, il faut un plan public pour montrer que la culture est essentielle. Et c'est quoi? Et surtout,
Non, on n'a plus le temps, Gilles.
Si, c'est comment repenser les activités culturelles dans ce nouveau contexte.
Très vaste question et malheureusement le temps nous manque, Louis Schweitzer, mais d'un mot d'ailleurs, comment expliquer qu'on n'ouvre pas les festivals alors qu'on va pouvoir retourner dans le métro bondé aux heures de pointe ?
Sans doute parce que le risque pour un festival, je veux dire, vous êtes à Avignon, c'est le métro à l'heure de pointe. Je ne pense pas que le métro parisien sera comme l'heure. Bon, on peut pas s'en passer, on peut pas faire autrement. Et on a l'idée que la culture est l'accessoire et le travail est l'essentiel. Peut-être que ça évoluera avec le temps.
Mais d'un mot, puisque vous êtes un esprit qui est rationnel, vous comprenez qu'il y ait cette différence de traitement, par exemple, entre l'ouverture d'un cinéma, d'une pièce de théâtre dans un festival et les transports publics ?
Écoutez, qui accepterait qu'il y ait des centaines de morts parce qu'il y a eu un festival à Avignon ?
Je laisse la question justement en l'air pour que chacun puisse la méditer. Merci infiniment Louis Schweitzer d'avoir été notre invité. C'était passionnant. Un grand merci à Paola Puerari qui a préparé cette émission. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. À la réalisation, c'était Coy Nguyen et à la technique Renan May et Henri Bérec. À suivre sur Inter, le journal d'Yves Decamp.
France Inter à vos côtés. Le répondeur « Ma vie confinée » est ouvert.
Je suis américaine, j'ai eu l'occasion de rentrer aux États-Unis, mais je l'ai refusé. Le spectre de confinement là-bas me paraissant chaotique et très mal géré. Alors j'ai choisi de rester confinée en France. Je voudrais dire aux Français que je vous aime. J'adore votre pays, votre langue et votre culture. Thank you, French people. Take care of yourselves.
01 56 40 68 68.
Samedi 25 avril 2020, J-16, et merci d'être à l'écoute de France Inter.